France Inter.
Le journal, Corinne Audouin, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, triste mois du Ramadan qui se profile pour les habitants de Gaza, assiégés depuis 5 mois, déplacés, affamés. Le mois sacré des musulmans débutera demain ou lundi et l'espoir d'une trêve avec Israël d'ici là s'amoindrit d'heure en heure. Dans l'actualité également, comment construire la ville de demain face au changement climatique? Reportage à Rosny-sous-Bois où l'on utilise la paille, le bois et la terre. On s'intéressera à la mémoire criminelle et aux archives judiciaires essentielles pour résoudre les affaires non élucidées. Focus sur l'autre film français nommé aux Oscars, le documentaire Les Filles d'Olpha. Et puis on parlera des déboires de l'OGC Nice et du football et de la folie MMA. C'est au menu du journal des sports de Nicolas Perronnet.
Et notre invité à 8h20, le député RN Jean-Philippe Tanguy, président délégué du groupe à l'Assemblée nationale.
Vos questions, chers auditeurs, vos interventions au 01 45 24 7000 et sur l'application France Inter.
France Inter.
L'espoir d'une trêve des combats à Gaza avant le début du Ramadan semble de plus en plus ténu. Le mois sacré des musulmans commencera après l'apparition du premier croissant de lune. Ce sera demain, dimanche ou lundi. Une période synonyme de prière et de jeûne dans la journée, mais aussi de repas en famille et de fêtes dès la nuit tombée. Alors que la guerre entre Israël et le Hamas est entrée dans son 6e mois, les Gazaouis, dont la plupart ont dû fuir leur maison, tentent de survivre. Alors célébrer le Ramadan, ce sera très difficile cette année. Depuis Ramallah, en Cisjordanie, Alice Froussard a recueilli le témoignage d'habitants de l'enclave palestinienne.
Avant la guerre, c'était dans leur appartement dans la ville de Gaza que Youssef, sa femme et ses 2 enfants passaient chaque Ramadan. Des iftars en famille et de la nourriture à n'en plus finir. Cette année, la maison a été réduite à l'état de gravats et pour le repas de la rupture du jeûne, il n'y aura même pas le strict minimum, soupire ce père de famille.
Hier, ma fille m'a demandé quelque chose qu'on ne peut plus se permettre. Elle m'a demandé si je pouvais lui acheter du poulet et malheureusement, c'est hors de prix.
Elle lui demande aussi une poupée, des habits. Son fils réclame des chocolats.
Ils veulent toutes ces choses. Mais moi, j'essaie juste de leur faire oublier.
Un crève-cœur, assure Youssef, et un Ramadan que tous appréhendent à Gaza. Asma est professeure de français, déplacée elle aussi.
Le seul Ramadan, c'est à moi, spécial pour nous.
Mais sans sa famille ni ses voisins, elle dit ne pas trouver les forces.
Moi, chaque jour, je pleure parce que c'est un peu trop difficile de passer le Ramadan. Dans un milieu, ce n'est pas ton milieu, ce n'est pas ta chambre, ce n'est pas ta vie. On va rester comme ça. Combien de temps ?
Combien de temps avant que la communauté internationale fasse pression sur Israël, implore-t-elle. Cette année, pour le mois sacré du Ramadan, les Gazaouis ne pourront compter que sur leurs prières, dit-elle.
Correspondance d'Alice Froussard depuis Ramallah. Les largages d'aide humanitaire sur Gaza continuent, non sans risque. 5 personnes ont été tuées hier par la chute de colis largués par avion. Le parachute ne s'est pas ouvert. L'Union européenne espère ouvrir dès demain un corridor maritime depuis Chypre pour approvisionner Gaza. Quant au port flottant promis par les Américains, son édification pourrait prendre 2 mois. Le Sénat américain évite la paralysie de l'administration fédérale. Les élus ont voté juste avant minuit un accord sur le budget, accord qui court jusqu'au 30 septembre prochain. 2 ans après le début de l'invasion russe en Ukraine, aucune perspective de paix ne se dessine. La Turquie se dit cependant prête à accueillir un sommet entre les deux pays. C'est ce qu'a dit le président turc en recevant à Istanbul son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Et pour la première fois, Recep Tayyip Erdogan évoque son retrait du pouvoir. Il affirme que les municipales du 31 mars prochain seront ses dernières élections. Son mandat actuel court jusqu'en 2028. Il aura alors 75 ans.
8h05 sur France Inter. Des maisons en paille, en bois et en terre. Et si c'était la solution face au changement climatique?
C'est en tout cas le pari de la ville de Rosny-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Les températures augmentent, le coût de l'énergie aussi. 2 centres de loisirs et 3 écoles fabriquées avec ces nouveaux matériaux sont déjà sortis de terre. Reportage de Martin Delacou sur le chantier d'une école maternelle dans le quartier des Marnaudes.
À deux pas de l'actuelle cour de récré, les artisans naviguent entre des cubes de paille et la charpente en bois. Le gros œuvre est terminé, place maintenant à la pose des cloisons ou à l'électricité. Thierry Dehé installe des pots électriques, ces boîtes qui permettent de faire les raccordements.
Il faut éviter la paille ou sinon il faut mettre des renforts bois pour visser le pot si on arrache tout à la longue. Vous voyez, des petites contraintes comme ça par rapport à une construction dure, on va dire.
Tous les matériaux sont locaux, la paille de Seine-et-Marne, le bois vient de chênes d'Île-de-France qui ont été achetés sur pied et en forêt. Un moyen de se passer d'intermédiaires et donc de se protéger contre les pénuries. Emmanuel Pézeres est architecte et directeur du service recherche et innovation de la commune.
On a des chaînes complètes d'approvisionnement, d'où l'intérêt de travailler en local et d'être détaché d'un commerce international qui est totalement irrégulé et qui peut avoir des variations à la hausse, à la baisse qui sont autant d'imprévisions que les budgets ont du mal à supporter.
Sur les toits, de grandes cheminées à vent d'inspiration iranienne doivent contribuer à permettre de garder le bâtiment frais, même avec les scénarios de réchauffement climatique les plus pessimistes, de quoi réduire aussi la facture énergétique et largement compenser le surcoût de fabrication du bâtiment.
Et à propos de rénovation énergétique cette fois, le gouvernement fait marche arrière sur certaines dispositions de MaPrimeRénov'. Les rénovations simples, comme les changements de fenêtres, pourront à nouveau en bénéficier, entrer en vigueur possiblement au mois de mai. Attention aux fortes pluies et aux inondations aujourd'hui dans le sud-est. Trois départements sont en vigilance orange, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche et le Var. Dans les Alpes-Maritimes, le préfet déconseille de prendre sa voiture et de se promener à proximité d'un cours d'eau à partir de cet après-midi. Et puis j'ajoute que la Loire et la Haute-Loire sont placées, elles, en vigilance pour vent ce samedi à partir de 11h pour la Haute-Loire et 16h pour la Loire. Les pêcheurs du Nord et du Pas-de-Calais rejoignent les agriculteurs en colère. Manifestation commune cet après-midi à Boulogne-sur-Mer avec la coordination rurale locale. Ils dénoncent des normes européennes trop lourdes et s'inquiètent de la multiplication des zones interdites à la pêche. Du poisson dans l'assiette, pourquoi pas, et aussi des fruits et des légumes. Pas trop de gras ni de sucre, c'est la base d'une bonne alimentation. Mais bien manger, ça s'apprend. C'est l'enseignement d'une enquête de l'Institut Harris Interactive. Enquête menée à la demande du gouvernement. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
Alors beaucoup de choses se jouent dans l'assiette et il y a de la pédagogie à faire auprès des plus jeunes.
Oui, car un jeune interrogé sur 5 ne reconnaît pas une courgette en photo, y voyant un concombre ou une aubergine. Et les 15-24 ans, sans grande surprise, consomment aussi plus de plats transformés, 44% plusieurs fois par semaine, contre 23% dans l'ensemble de la population. Ils fréquentent également plus les chaînes de restauration rapide, 59% y mangent au moins une fois par mois. L'étude montre aussi que malgré une très forte inflation, le volume de vente des chips et des pâtes à tartiner n'a pas baissé. En revanche, les jeunes consomment moins de fruits et de légumes frais, invoquant des produits trop chers et trop difficiles à préparer.
Et c'est justement ce que voudrait changer le gouvernement.
Oui, avec un triple enjeu de santé publique et d'égalité des chances. L'obésité touche 18% des ouvriers et employés, 10% des cadres supérieurs. Et c'est aussi un enjeu de pouvoir d'achat, car manger sainement ne coûte pas plus cher. Mais il faut apprendre, par exemple, à faire une soupe de légumes et la congeler si besoin. Il faut aussi savoir décrypter les étiquettes et être mieux informé des méfaits de l'excès de gras, de sucre, de sel, d'additifs très présents dans les produits transformés. Alors il existe bien une semaine du goût dans les écoles, mais c'est insuffisant. Et l'exécutif souhaite encourager les initiatives locales, à défaut de pouvoir les imposer dans les classes.
Merci Agnès Soubiran du service économie et sociale de France Inter. La majorité présidentielle se lance dans la campagne pour les européennes. Premier meeting cet après-midi à Lille, de la tête de liste Renaissance, l'eurodéputée Valérie Hayer. À ses côtés, le gouvernement quasi au complet et un défi, rattraper l'avance dans les sondages du candidat du RN, Jordan Bardella.
8h10, résoudre les affaires criminelles non élucidées, c'est la mission du pôle judiciaire consacré à ce qu'on appelle les cold cases.
Oui, la juridiction rattachée au tribunal de Nanterre fête ses 2 ans. Elle compte déjà plusieurs réussites, mais les dossiers s'accumulent. Un quatrième juge d'instruction va d'ailleurs être nommé. Pour les résoudre, les enquêteurs travaillent sur la mémoire criminelle. Pour cela, il faut avoir accès aux archives juridiques. Or, il n'existe pas de base de données nationale. Les avocats spécialisés dans ces enquêtes au long cours lancent l'alerte. En raison de changements informatiques, une partie de ces archives n'est plus accessible. Delphine Evenou.
Depuis quelques années, les serveurs de l'ancien logiciel des tribunaux ne sont plus entretenus et certains dossiers classés avant les années 2010 sont désormais inaccessibles, déplore maître Didier Seban.
Quand un juge décide d'arrêter une affaire, il rend une ordonnance de non-lieu. Quand on va vouloir rouvrir l'affaire, il faut pouvoir retrouver le dossier. Si je n'ai pas le numéro du dossier, si l'informatique ne marche plus, je ne sais pas où chercher tout ça. Et donc je ne peux pas reprendre une affaire Holm, une affaire Fourniret.
De quoi compliquer le travail du pôle Cold Case de Nanterre qui utilise une approche inédite, les parcours criminels. Pascal Prache, le procureur de la République de Nanterre.
Plutôt que de partir d'un fait isolé, eh bien là, on va identifier une personne qui était soit condamnée, soit mise en cause dans une autre procédure, et pour laquelle on peut penser, peut-être, qu'il y a une potentielle sérialité.
Et pour le découvrir, il faut préserver la mémoire criminelle existante et créer de nouveaux outils. Benjamin de Paris, le président du tribunal judiciaire de Nanterre.
Vous pouvez faire un travail de fourmi sur 10 000 côtes sur 12 tomes, si vous n'avez pas l'élément déclencheur, et l'élément déclencheur, il va être ailleurs, dans les scellés, dans un dossier qui en ont lieu. L'enjeu, c'est d'avoir un outil numérique qui rassemble, on va dire, cette bibliothèque de données dans une plateforme ouverte aux professionnels.
Le ministère de la Justice assure que tout cela est en cours d'élaboration.
Isabelle Saporta a perdu son bras de fer avec Vincent Bolloré. La PDG de Fayard est convoquée pour un entretien préalable à son licenciement. En cause, l'arrivée de Lise Boël, l'éditrice d'Éric Zemmour, est proche de Vincent Bolloré. Le milliardaire breton a pris le contrôle du groupe Hachette. Isabelle Saporta s'opposait à la publication par Lise Boël de plusieurs livres d'auteurs d'extrême droite sous la bannière Fayard. Et si la meilleure chance française de remporter un Oscar s'appelait « Les filles d'Olfa » signée Kauter Benania, cette production franco-tunisienne est nommée à l'Oscar du meilleur documentaire. Et elle aussi, comme Justine Triet et son film « Anatomie d'une chute » nommé 5 fois, elle aussi donc la réalisatrice a fait le voyage vers Los Angeles. Alexis Desmeillards l'a rencontrée.
C'est avec un mélange de tension et de décontraction que la Tunisienne Kauter Benania nous accueille sur la terrasse de son hôtel hollywoodien.
Il fait beau, il y a une piscine juste à côté, c'est très LA, donc j'essaie de me détendre. Le film a eu un parcours incroyable, il a eu plus d'une vingtaine de prix, donc si on a un Oscar, ce sera historique. Si on n'a pas d'Oscar, bah, je reviendrai.
Olfa élève seules ses 4 filles, mais les 2 aînées se radicalisent et finissent par rejoindre Daesh en Libye. 2 jeunes actrices les incarnent à l'écran. Les filles d'Olfa est un film audacieux et très engagé à l'image de sa réalisatrice.
Moi, je pense que raconter une histoire, c'est très politique. Et au-delà de l'histoire tuniso-tunisienne très locale, je pense que si le film n'avait pas une humanité partagée, quelque chose de très universel qui touche un petit peu partout, indépendamment de la culture, on ne serait pas là aujourd'hui à parler des Oscars.
Le principal concurrent demain soir du formidable documentaire de Kauter Benania est un film ukrainien, 20 jours à Mariupol, tourné clandestinement pendant le siège de la ville en 2022.
Alexis Desmeillards depuis Los Angeles, où il nous fera vivre ses Oscars. Ce sera lundi matin, très très tôt.
8h13 sur Inter, le journal des sports.
Avec Nicolas Perronnet ce matin, bonjour.
Bonjour Corinne.
Et d'abord la Ligue 1, rien ne va plus à Nice.
Et non, les Aiglons que certains voyaient pourtant tranquilles candidats au podium il y a encore quelques semaines, eh bien c'est la chute libre. Nouvelle défaite hier soir, elle fait mal celle-ci à domicile face à Montpellier. Défaite 2-1, c'est la 4e en 5 matchs. Nice 5e ce matin s'enfonce dans la crise et ce n'est pas très agréable, reconnaît le défenseur Jean-Claire Todibo.
Beaucoup de frustration, beaucoup d'agacement parce qu'on met vraiment tous les ingrédients qu'il faut mettre pour aller de l'avant. Après, il y a des moments dans la vie où voilà, les choses ne vont pas dans notre sens. On va rester concentré sur ce qu'on fait et c'est sûr qu'à un moment donné, cette spirale changera.
Une 25e journée de Ligue 1 qui se poursuit aujourd'hui. Elle sera marquée ce soir par le déplacement à Lens de Brest. Le surprenant dauphin du PSG à 17h. Lorient reçoit Lyon privé de son buteur. Alexandre Lacazette toujours blessé.
Et c'est l'événement de la nuit en boxe. Un combat express, Nicolas.
Oui, ça n'a pas traîné. Expéditif la victoire de l'ancien champion du monde des poids lourds, le britannique Anthony Joshua. Impressionnant. Il a dominé la star du MMA, Francis Patrice Ngannou en mettant KO le Camerounais dès le deuxième round. Lui qui avait pourtant fait vaciller Tyson Fury à l'automne. Alors il y a beaucoup de gros rendez-vous dans les sports de combat en ce moment. Avant-hier déjà la défaite de Cédric Doumbé en MMA à Bercy, événement mondial. Et la nuit prochaine, c'est une autre star du MMA tricolore qui va entrer dans la cage. Un combat très attendu à Miami entre Benoît Saint-Denis et l'Américain Dustin Poirier. C'est déjà une consécration, Emma Sarango, pour le Français.
Il y a à peine un an et demi, il remportait sa première victoire à l'UFC et le voilà aujourd'hui face à l'un des plus grands. L'ascension de Benoît Saint-Denis laisse sans voix tous les spécialistes du MMA, à l'image de Jean-Charles Barrès, commentateur pour la chaîne L'Équipe.
Si on avait placé le nom de Benoît Saint-Denis et celui de Dustin Poirier dans la même phrase il y a encore quelques mois, les amateurs de MMA auraient rigolé. Au moment où Benoît il débute sa carrière professionnelle en MMA, Dustin Poirier, lui, il combat déjà pour le titre.
Alors comment le God of War, c'est son surnom, a-t-il séduit l'industrie du spectacle qu'est l'UFC ? D'abord par son parcours, lui l'ancien des forces spéciales qui a combattu au Sahel, mais c'est aussi sa façon de combattre qui fait de lui un produit efficace.
C'est un garçon qui a un style très télégénique. Toutes ses victoires, il les a obtenues avant la limite, que ce soit par soumission ou par KO. Et ça, c'est quelque chose qui plaît énormément.
Et si ce soir, il n'y a pas de ceinture en jeu, une victoire signifierait beaucoup pour tout le MMA français.
Chaque sport, pour exister, a besoin d'avoir un porte-drapeau. Benoît Saint-Denis peut devenir le visage du MMA français.
Une nouvelle ère qui ne s'ouvrira pas avant la nuit prochaine. Le combat est prévu au minimum à 4h30, heure française.
Voilà, c'est comme pour les Oscars, il faudrait être matinal. Et puis en biathlon, c'est son cinquième succès de l'hiver. La victoire de Justine Brezza-Boucher hier soir sur le sprint de Soldier Hollow. C'est aux États-Unis, dans l'Utah. La Française se relance dans la course au Globe de Cristal, désormais deuxième du classement général de la Coupe du Monde.
Et être matinal, ça ne nous fait pas peur. Merci Nicolas Perronnet pour Journal des Sports.
C'était le journal de Corinne Audouin. Il est 8h17.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques, Euromaster garantit votre mobilité et préserve votre budget.
Camille Esnault, un week-end encore mouvementé pour le Sud-Est.
Et oui, aujourd'hui, les Alpes-Maritimes, le Var et l'Ardèche également passent en vigilance orange pluie inondation, avec jusqu'à 120 mm de cumul attendu en 24 heures pour la région PACA, 200 mm sur les Cévennes, où dès ce matin, la neige tombe au-dessus de 1300 mètres et le vent souffle fort jusqu'au bord de la Méditerranée. Dès ce matin, la pluie touche la moitié ouest de la France également, sur les Pyrénées. Elle s'accompagne de vent et de neige au-dessus de 1300 mètres. Attention au risque d'avalanche sur l'ouest du massif. Sur les Cévennes, la neige tombe au-dessus de 1300 mètres également et le vent souffle jusqu'aux côtes méditerranéennes. Ce matin, il fait 2 à 6 degrés au nord, entre 4 à 8 au sud et jusqu'à 10 degrés en bord de Méditerranée.
Vigilance orange pour 3 autres départements.
Oui, et au vent violent pour la Haute-Loire et la Loire, au cru pour la Charente-Maritime. Cet après-midi, les pluies se généralisent et seront soutenues sur la région PACA jusqu'aux Cévennes avec du vent, toujours parfois un coup de tonnerre, risque d'avalanche également sur les Alpes du Sud. À l'ouest, les averses sont parfois orageuses et les maximales sont assez homogènes cet après-midi avec 10 à 15 degrés attendus et toujours jusqu'à 17 en Corse.
Merci Camille Esnault, merci à vous d'écouter Inter, il est 8h18.